Bonjour à tous, il est 16h ici à Paris, 9h à la Nouvelle-Orléans. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellicha.
Au sommaire de cette édition, l'enquête se poursuit aux États-Unis après l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans qui a fait 15 morts. Le profil de l'assaillant se dessine. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans son véhicule. La police pense qu'il avait aussi des complices. En Corée du Sud, partisans et adversaires se font face devant la résidence du président déchu en attendant son éventuelle arrestation. Yoon Suk-yeol refuse toujours de se rendre. Et puis les loutres sont peut-être la solution miracle pour lutter contre de méchants crabes qui envahissent la côte ouest américaine. Explication à la fin de ce journal. L'enquête se poursuit aux États-Unis après l'attentat à la Nouvelle-Orléans. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs États. D'éventuels complices recherchés. L'auteur de l'attaque n'aurait pas agi seul. Cet ancien militaire américain transportait un drapeau de l'État islamique dans son véhicule. 15 personnes sont décédées après avoir été fauchées par le pick-up lancé à toute vitesse. Une trentaine d'autres ont été blessées et des questions se posent sur le dispositif de sécurité mis en place par la ville et la police locale. Des éléments de réponse avec Daniel Valo.
En 2017, un an après les attentats de Nice, la Nouvelle-Orléans fait installer des bornes amovibles aux entrées du quartier français pour éviter qu'un drame similaire ne s'y reproduise. Mais ces bornes n'ont jamais fonctionné normalement et la police locale a décidé de ne plus les utiliser. Ces bornes amovibles devaient être remplacées cette année, mais pour un autre événement, le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, c'est ce qu'a expliqué hier soir la maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell.
La Nouvelle-Orléans doit accueillir le Super Bowl cette année. C'était l'occasion d'améliorer nos infrastructures pour cet événement sportif majeur. Donc, les bornes n'étaient pas opérantes parce qu'elles sont sur le point d'être remplacées et elles devaient l'être bien sûr d'ici au Super Bowl.
Pour suppléer à ces bornes inopérantes, la police de la Nouvelle-Orléans avait posté des véhicules et des barrières pour sécuriser le quartier. Mais le conducteur du camion Bélier a contourné le dispositif en roulant sur le trottoir. « Nous reconnaissons que nous avons un problème, mais nous allons le résoudre », a conclu hier soir le gouverneur de Louisiane. Outre le Super Bowl le mois prochain, les autorités s'inquiètent pour le carnaval qui aura lieu début mars et qui attire tous les ans énormément de touristes dans les rues de la Nouvelle-Orléans.
Les enquêteurs cherchent une éventuelle connexion entre l'attentat et l'explosion d'une Tesla. À Las Vegas, cette fois, un véhicule de la société d'Elon Musk a explosé devant un hôtel Trump hier soir, faisant un mort. Comme à la Nouvelle-Orléans, le véhicule a été loué sur l'application de covoiturage Turo, mais pour l'instant, aucun lien formel n'a été établi. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé une opération de ratissage à Homs, dans les quartiers alaouites, la minorité de Bachar al-Assad. Selon les autorités, des criminels de guerre s'y cachent. La semaine dernière, une offensive avait déjà été menée contre des combattants pro-Assad dans la province côtière de Tartous. Des centres de régularisation ont été ouverts en Syrie pour tenter d'intégrer les anciens membres du régime Assad, armée, police et services de sécurité. Sur le plan international, les nouveaux dirigeants syriens ont réservé leur premier déplacement à l'étranger à l'Arabie Saoudite. Plusieurs ministres sont à Riyad. La semaine dernière, le nouvel homme fort de Damas, Abu Mohamed al-Julani, avait déclaré que l'Arabie Saoudite pourrait tirer de grandes opportunités d'investissement en Syrie, un pays à reconstruire après près de 14 ans de guerre. L'ONU demande officiellement l'annulation de la suspension d'Al Jazeera. L'autorité palestinienne a pris la décision de suspendre hier la diffusion de la chaîne qatari. Raison invoquée, Al Jazeera serait responsable d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Le Hamas et le djihad islamique protestent également après cette suspension. Depuis plusieurs semaines, de violents affrontements opposent les deux groupes islamistes aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne à Jenin. En Corée du Sud, le face-à-face est tendu devant la résidence du président déchu. Ses opposants exigent sa détention immédiate. Yoon Suk-yeol refuse de se rendre. Il est pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt, poursuivi pour rébellion après sa tentative d'imposer la loi martiale. Ses partisans, eux, appellent à le protéger face à la menace de son arrestation. Des manifestants aux positions ultra-conservatrices que notre correspondante Camille Ruiz a rencontrés.
Devant la résidence officielle du président, les manifestants agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Une bannière appelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Kang Tae, 60 ans, est venu s'opposer au mandat d'arrêt délivré contre Yoon Suk-yeol.
Si ce processus illégal nous enlève notre président, nous prend notre liberté, nous avons le devoir de l'arrêter, même s'il faut aller se battre pour ça. C'est ce que je suis venu faire ici. S'il y a un prix à payer pour défendre le président Yoon Suk-yeol, je le paierai.
Pom Sok, entrée militaire et chapeau, se tient parmi les manifestants.
Notre peuple doit s'opposer à cette arrestation et la faire échouer. Si on ne réussit pas, notre pays va tomber dans le communisme. Nous faisons face à un criminel de guerre, menteur, tyrannique, Lee Jae-myung, qui sous la direction de la Chine et de la Corée du Nord essaye de devenir président de notre pays.
L'ancien soldat en est convaincu, Lee Jae-myung, leader du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, organise un complot avec l'aide de Pékin et Pyongyang. Une théorie sans fondement véhiculée par les youtubeurs sud-coréens d'extrême droite, d'après les médias locaux. Sur les coups de 17h, heure locale, une trentaine de manifestants franchissent une barrière de police, les forces de l'ordre disperse le groupe de force. Mercredi 1er janvier, les enquêteurs ont prévenu toute personne qui s'oppose à l'arrestation du président Yoon Suk-yeol pourra être poursuivie. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En France, le nouveau gouvernement Bayrou prend ses marques et les ministres entendent bien occuper le terrain médiatique. Le nouveau garde des Sceaux est à Marseille aujourd'hui. Un déplacement de Gérald Darmanin consacré à la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Demain, premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou avec un dossier prioritaire, l'adoption d'un nouveau budget et le casse-tête recommence. Raphaël Delvolvé.
Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, n'a pas attendu 2025 pour préparer le budget. Depuis lundi, il a ouvert un cycle de consultation des forces politiques de l'Assemblée, y compris les oppositions placées aux extrêmes de l'hémicycle, celles-là même qui ont fait tomber Michel Barnier sur son projet de loi de finances qui comprenait 40 milliards d'économies et 20 milliards d'impôts nouveaux. En 2025, l'équation est la même. Quelle voie de passage trouver pour tenter de sortir les comptes de la France du rouge sans se faire censurer ? Faut-il donner des gages au nouveau Front populaire qui demande davantage de taxes ou bien au Rassemblement national qui prétend défendre les classes populaires mais dont on sait désormais que sa position peut fluctuer ? Une chose est sûre, le nouveau gouvernement, contrairement au précédent, ne veut pas paraître trop borné, mais les consultations ne peuvent pas s'éterniser. Le temps presse en raison de la censure. C'est pour le moment le budget 2024 qui s'applique, soit un déficit estimé pour 2025 à plus de 6% du PIB, toujours plus loin des 5% envisagés pour cette année par Michel Barnier. François Bayrou, qui s'affiche depuis longtemps en chantre de la rigueur, assure pouvoir boucler la séquence budgétaire à la mi-février.
Au chapitre environnement, ce nouveau record en Chine. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis 1961, date du début des relevés. Aux États-Unis, pour résoudre un désastre écologique, des scientifiques misent tout sur des loutres. Le long de la côte ouest, une espèce invasive fait des ravages. Des crabes verts d'impressionnantes colonies originaires d'Europe qui menacent l'ensemble de la chaîne alimentaire de ces fragiles écosystèmes du sud de la Californie jusqu'au nord-est de l'État de Washington. Depuis des décennies, les autorités américaines tentent de venir à bout de ces crustacés en vain. Les explications de Stéphanie Schuller.
Si Elkhorn's Slough est bien moins envahi par les crabes verts que le reste de la côte pacifique américaine, c'est parce que cette réserve naturelle en Californie abrite un groupe de 120 loutres de mer. Ces mammifères se nourrissent de coquillages et de crustacés, et le crabe vert fait partie de leur repas préféré. Le groupe en avale jusqu'à 120 000 par an. C'est le décompte d'un groupe de scientifiques internationaux qui a constaté des bénéfices étonnants sur l'écosystème de la réserve. Avec moins de crabes verts dans l'eau, une espèce d'escargot de mer, qui est leur proie principale, peut se développer normalement. Ces escargots mangent à leur tour les algues qui empêchaient la lumière du soleil d'atteindre les herbiers marins. Désormais, ces prairies solo se portent mieux et servent de nouveau de refuge aux poissons juvéniles et de nourriture aux oiseaux migrateurs. Chassés pour leur fourrure au XVIIIe et XIXe siècle, les loutres de mer ont failli disparaître. Il n'existe plus que 3000 individus en Californie. Mais depuis la publication de cette étude, les autorités envisagent la réintroduction des loutres de mer sur toute la côte ouest américaine.
Un mot du vent des globes pour refermer ce journal. Johan Richaume est toujours deuxième, mais il talonne désormais Charlie Dalin. L'avance du leader de la course autour du monde en solitaire a fondu pendant la nuit. Le duel se poursuit au large du Brésil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.